Mémoire vive,
présentée par Ève Cheftel
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Nous avons le grand honneur et le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Beate Klarsfeld pour ce deuxième volet de Mémoire vive consacré à vos mémoires. C'est le titre de votre livre, paru aux éditions Fayard Flammarion. Des mémoires écrites à quatre mains avec votre mari Serge, votre mari avec qui vous formez depuis le 11 mai 1960, jour de votre rencontre, ce couple mythique qui a obligé l'Allemagne, la France, on peut même dire l'Europe, à regarder en face le passé nazi et à faire un examen de conscience. On dit que tout se décide dans l'enfance. Or, dans votre enfance, vous écrivez, Beate Klarsfeld, on évitait de parler d'Hitler. Vous dites même de vos parents, tous deux n'avaient rien oublié, ni rien appris des grands bouleversements qu'ils avaient traversés avec inconscience. Et je me demandais si ce n'était pas l'attitude inconsciente de vos parents face au nazisme qui vous avait poussé à être la conscience d'un pays inconscient. C'est la très belle formule, je trouve, de Yankelevitch à votre sujet, la conscience d'un pays inconscient. Est-ce que ça a joué un rôle?
Ça joue un rôle, bien entendu, que, bon, enfin, y a, de toute façon, dans ma génération, les parents des autres, mes amis, ils ne parlaient pas du passé nazi. La plupart, comme mes parents, ont voté quand même en grande majorité pour Hitler. Mon père était dans l'armée, il n'était pas un nazi convaincu, au contraire, il était triste qu'il a dû être appelé à l'armée, mais il était obligé. Mais après la guerre, mon père était donc à l'armée, on était, l'appartement était bombardé, on a dû trouver le refuge chez des parents à l'extérieur de Berlin. Là, ce sont les Russes qui sont venus. Et puis on est rentré à Berlin. Mon père, heureusement, était prisonnier chez les Anglais, donc libéré rapidement. Parce que j'avais des amis à l'école, quand les professeurs lui demandaient « Et votre papa ?» Mais ils disaient tous, beaucoup, « Il est mort en Russie parce qu'il était soldat en Russie. » Donc mon père a échappé à ça. Et puis, en principe, c'était... vous savez, j'habitais à Berlin, donc c'était quand même un peu plus partagé parce que c'est une ville partagée. Il y avait donc quand même deux camps, le camp capitaliste, le camp communiste. Bon, c'était pas encore le mur, la séparation, mais donc deux mondes différents. Ça préparait déjà un petit peu peut-être aussi ma conception qu'est-ce que c'était la Deuxième Guerre mondiale, pourquoi cette destruction, pourquoi mon père devait nettoyer les briques. Et puis,
vous êtes né en 1939 avez grandi quand même au milieu des ruines.
Enfin. Bien sûr, après la guerre, on jouait dans les ruines.
Et puis, donc même si on ne vous disait rien, devant vous, vous aviez principe, le spectacle de
On avait les spectacles, mais enfin, à l'école, c'était normal à l'époque, on n'en parlait pas. Un prof peut-être d'histoire qui avait un certain âge avait peut-être peur aussi que les élèves vont lui poser la question « Mais vous, monsieur, pendant cette période, quel était votre rôle ? Vous étiez dans l'armée, vous étiez nazi. » Donc, en principe, c'était très commun qu'on n'en parlait pas beaucoup. Mes parents, comme beaucoup de parents d'ailleurs, étaient plutôt concernés par leur propre sort. Jamais un mot sur les victimes. Eux, mes parents souffraient parce qu'ils avaient perdu leur appartement. Et puis pour eux, finalement, donc je vous dis, habiter à Berlin, les méchants devenaient les communistes. Voilà. Donc c'était le monde communiste était mauvais pour. Et puis une fois, je vous dis, la chance était que j'ai décidé d'aller à Paris, de quitter Berlin. Bon, le travail n'était pas tellement. Formidable, et puis voilà, d'avoir un autre monde, et puis aussi apprendre une langue. C'était à l'époque, je crois que pour beaucoup de jeunes, j'étais parti avec une amie, notre amie qui partait aussi, on voulait voir autre chose. Donc c'était peut-être inconscient, et puis donc arriver à Paris, dans un pays qui était occupé par les Allemands, j'étais là en Amérique, ce n'était pas la même chose, vous voyez. Donc arriver en France, avoir rencontré tout de suite. Comme vous dites, la date, Serge, dont le père a été assassiné par mon peuple. Donc, ça a quand même donné la base pour mon engagement plus tard.
Votre premier engagement, donc, c'est... Vous travaillez à l'Office franco-allemand de la jeunesse. Quand Kurt Georg Kissinger accède à la chancellerie, début 67. Et là, à votre grand étonnement, on en parle un petit peu dans la presse française, mais dans la presse allemande...
Même en Israël, on n'en parle pas. En Allemagne, de toute façon, pas, parce qu'on l'a élu démocratiquement. Mais c'était donc justement pour...
Quel est le déclic en fait chez
déclic,
vous à
c'était
ce moment-là
que, comme vous dites, je travaillais à l'Office franco-allemand. Mm. J'ai publié 3 tribunes libres dans le journal Combat, mm. où je mettais en face le résistant Willy Brandt et le nazi, le chancelier Kissinger. Donc, c'est un des articles, le dernier, je dirais, évoqué de l'Office franco-allemand quand même. C'était un office pour rapprocher les jeunes français-allemands qui oui. devaient en principe condamner le passé allemand.
C'est
mais
ça.
Non, le secrétaire général à l'époque était même un résistant. Dans la commission, dans le conseil des Allemands, il y avait les anciens nazis. Tout ça n'a pas empêché que finalement, je dirais, évoqué pour avoir dit qu'un nazi, un chancelier nazi qui je condamne. C'était la raison qui était quelque chose d'aborissant parce que être française, allemande aussi. Donc ça nous a en principe donné les clics pour dire c'est pas possible que comme à la porte d'une Allemande qui dit que le chancelier allemand et nazi c'est mauvais. Donc on a commencé à s'engager parce que...
Vous dites que, excusez-moi, l'exemple de Hans et Sophie Scholl vous a beaucoup
ça, c'est
inspiré.
Ça c'était pour Serge bien entendu parce que je dis en arrivant il y avait quand même des amis de Serge qui avaient des préjugés contre les Allemands. En principe, moins contre les jeunes, mais enfin, quand même aussi. Donc, Serge m'avait dit, bah, écoutez, il y avait Hans-Sophie Scholl qui, avec la professeure, s'est opposée au nazisme avec les tracts et qui était décapitée à l'âge. C'était quand même horrible. Et d'ailleurs, dans un de ses derniers tracts, il avait dit, écoutez, après la guerre, faites attention parce que tous ceux voilà, qui retournent
vous le citez,
la veste,
ouais.
qui font semblant
ouais.
comme rien n'est arrivé. Et puis, donc, ça nous a... Ça, surtout Serge, ça a dit... Donc, ils n'avaient pas de préjugés contre les Allemands du tout. Et puis, donc, l'Office franco-allemand, leur révocation, c'était le déclic pour s'engager. Ils ont demandé si vous regrettez vos mots. Bon, ce n'était pas le cas. En plus, il y avait une commission, le tribunal administratif refusait de traiter le cas. Il y avait la commission arbitraire de l'Office franco-allemand. Bien entendu, comme toujours, le juge allemand était un ami de Kissinger, membre du parti. Donc, vous voyez, ça s'enchaînait à l'époque. Aujourd'hui, on s'étonne. Mais à l'époque, c'était ça. Il y en avait partout, partout. Et puis les Allemands, je dis, il n'y a personne, l'Office franco-allemand, toutes mes collègues, personne n'est venu protester. Il y avait à l'époque ici, il y avait, même Grosser, vous voyez quand même.
Alfred Grosser.
Alfred Grosser n'a rien fait, au contraire. Non,
ouais.
mais personne ne trouvait ça, c'était honteux
et
à l'époque.
Et pourtant, il y avait la dénazification à l'époque,
oui,
alors
enfin,
c'était de façade.
Mais non,
c'était...
il y avait le procès de Nuremberg, qui était, ben, c'était des alliés.
Ouais.
Bon, et le procès Eichmann, c'était des Israéliennes. Ouais. Mais après, bon, ça traînait un petit peu, on avait créé Ludwigsburg, qui ramassait tous les dossiers sur les criminels nazis, qui les stockait, et puis si un cas était prêt, on les envoyait dans un certain, là où le criminel habitait. Mais il n'y avait pas tellement de procès. Puis
pas de volonté vraiment.
Il se passait silencieusement, hein, on ne parlait pas beaucoup. Mm. Bon, le procès de Auschwitz, procès à Francfort encore. Mm. Mais sinon,
alors
c'était
ça, c'est
quelque
important.
Chose de... Non,
oui.
c'était vraiment...
Oui, vous parlez d'une conspiration du silence dans
oui,
la presse.
Oui, mais la plupart...
vous qui avez
les Allemands avaient voté pour Hitler, alors pourquoi un chancelier était membre du parti nazi propagandiste, ça ne les gênait pas du tout. C'était... En plus, les Allemands avaient besoin des gens... ils étaient avocats, ils avaient besoin des gens qui étaient des académiciennes, qui devaient commencer à travailler tout de suite après
la
guerre,
aux
affaires étrangères.
Oui,
les juges étaient des nazis, les affaires étrangères étaient des choses anciennes, bien sûr. Ils ne voulaient pas faire confiance aux jeunes, donc ils prenaient l'ancienne équipe. Donc c'était... c'était à l'époque. Aujourd'hui, on s'étonne, on fait encore des procès contre ce Gröning, on a fait des Mianiou, on a fait Christo Kratler, celui qui a tiré à Oradour, mais on a dit on ne peut pas prouver qu'il il a pris son fusil pour tuer. Il était là, bon, enfin, oui, mais à l'époque, personne, le procès qu'on a eu à Cologne contre Lichkarn Hannesen, c'était dû à l'engagement de Serge et moi d'abord et tous les fils et filles qui sont groupés au nous, et c'était non plus un procès où on a envoyé les dossiers en cassant les carreaux, vous voyez, en manifestant, donc c'était des actions illégale, mais qui quand même montrait la grande illégalité que les Allemands ne voulaient pas juger ces criminels, c'est tout.
Alors justement, j'avais une question par rapport à ce mode d'action, cette méthode bien à vous, qui
ça
a
commencé
fois...
avec la gifle,
voilà, ça
a commencé après aussi. Après.
Mais qui à la fois de constituer un dossier d'accusation solide, étayé par des recherches,
chose, ça,
voilà, et en même temps faire un coup.
Ben,
et ça, vous dites, c'est intéressant que vous êtes. Cette intuition vous est venue aussi de... Enfin, ce savoir-faire pour mobiliser l'opinion publique, vous êtes venu aussi de la commune. La commune 1,
oh, bah, aussi commune un peu de toutes ces... La commune, à l'époque, quand j'ai commencé, aussi, oui, je les ai connus, bien sûr. Mais enfin, disons, ils avaient aussi, ils étaient un petit peu... Bon, après, on s'est séparés parce que ils combattaient surtout le capitalisme,
oui,
etc.
Oui, c'était pas vos combats. Bon, après, mais je veux dire, ces méthodes non conventionnelles.
Non, mais eux, ils étaient surtout capitalistes, tout ce qui était... Mais les nazis, oui, un petit peu. Mais quand j'ai proposé le cas Kissinger de faire campagne, ils disaient, mais écoute, Beate, ça s'appelait en allemand le Charaktermaske, c'est un masque caractéristique, donc il y en avait partout. Alors pourquoi se concentrer sur lui? Je dis, mais quand même, c'est le chef de la politique allemande, et puis c'est la gifle qui les a fait après.
Et comment vous êtes venu?
Parce qu'ils ont senti que c'était un acte qui... La gifle, un en prison ferme, ils ont compris que c'était... Pourquoi ça fait tellement scandale? Parce que c'était la jeunesse allemande qui se révoltait contre la génération nazie, c'est ça.
Mais je crois que vous avez été la première à avoir l'idée d'actes comme ça, à forte portée symbolique.
Ben, la gauche, là, à l'époque, ils avaient brûlé le Kaufhof, ils avaient fait pas mal d'actions, donc spectaculaires toujours,
oui.
Mais dans un autre sens.
Oui.
C'était jamais contre un criminel nazi, vous voyez.
Oui, c'est ça, d'accord. D'accord.
Je crois même quand il y avait un certain Ries qui était adjoint à Freis, là, celui, le grand juge qui condamnait les Allemands, les résistants, il était acquitté. C'était dans les années 60, début 70. Il y avait manifestation devant le Schöneberg, je crois que c'était le Rathaus Schöneberg, mais il n'y a jamais un jeune de cette groupe qui est allé chercher Ries, le tuer. Vous voyez, c'était pas l'idée. Non, c'est-à-dire il tuait après les capitalistes, il tuait même bêtement des soldats américains. Enfin, c'était vraiment après une tuerie qui n'était pas justifiée, c'est ça. Parce que...
Vous pensez que vous avez contribué à changer un peu l'orientation du mouvement étudiant allemand dirigeant contre les pères, la génération des pères.
J'étais soutenue, bien entendu. Ouais. Enfin, on s'est séparés après. Je dis le problème Israël, ça a commencé déjà avec la guerre du Vietnam. Parce que eux, l'ennemi, c'était les Américaines, mais les Américaines étaient amies avec les Israéliens. Donc oui. Et puis la plupart de ceux, beaucoup sont fait entraîner dans les camps palestiniens. Non, mais ce qu'on a pu réussir après, le grand groupe qui s'est mis derrière moi, on s'est engagé à faire démissionner Kissinger, c'est-à-dire le faire perdre les élections en 69. Et là, j'avais vraiment beaucoup de monde derrière nous. Il y avait pas, j'étais candidate contre lui dans une circonscription où il était candidat, moi, donc candidate officielle contre lui. Donc, je poursuivais toute sa campagne électorale qui se traversait toute l'Allemagne fédérale. Et là, je vous dis, on était toujours des centaines devant les salles de réunion, on criait Kissinger nazi démissionne. Donc, c'était vraiment... C'est de la gifle, je dis, symbolique qui avait immobilisé, qui s'est concentré sur Kissinger.
Et vous avez gagné.
Et fait, Brandt est venu au pouvoir.
Je me permets de lire cette phrase. Brandt est venu au pouvoir, donc vous dites, cette poignée de main mémorable entre Kissinger et Brandt lors de la passation des pouvoirs au nouveau chancelier, comme je l'ai savouré, ce sourire crispé du nazi défait, s'efforçant de faire bonne figure face à cet autre Allemand issu d'une Allemagne que l'hitlérisme n'avait pas réussi à écraser.
Ben oui, voilà. Ça, on s'est battu pour Brandt. Hein. Ça, c'est... Puis justement, on était, Serge vous a dit, on était à Varsovie, là, non? Donc, on a visité le musée juif. Alors, je dis, mais voilà, le Denkmal, c'est le geste de Brandt en 70. Oui, c'est...
Agenouillé.
Je dis, alors, où est la plaque pour lui? C'est un peu dans le parc. Tu as vu le musée? Donc, derrière, il y a un petit parc. Et hier, après, on a pris un guide, il nous a fait tourner en bus, il y a un genre de bloc rouge, et là-dessus, ils ont dû mettre, on n'est pas sorti du bus, on ne pouvait pas, mais Serge m'a dit qu'il avait vu ça avant, c'est une plaque en bronze, en relief, où on a vu la photo, enfin, ils auraient pu mettre un peu plus. Enfin, donc, ça c'est quand même, puis aussi l'ouverture avec l'Est, Brandt a joué un rôle extraordinaire.
Bien parce entendu. Que vous n'avez pas seulement votre combat, il ne s'est pas limité à la traque des anciens nazis, vous êtes aussi allé Vous avez aussi lutté contre l'antisémitisme, pas seulement les juifs assassinés, mais les juifs vivants. Hein. Vous êtes allé
à Prague,
voilà, vous le racontez.
Quand on était à Prague.
Ça se lit d'ailleurs comme un roman policier, vos mémoires, parce que
c'était à la Prague,
vous prenez des gros risques.
Pour voir l'exposition là, sur l'Auschwitz-Album. Et puis le soir, le lendemain, on avait une émission de télévision où les gens en tchèque, enfin traduit en anglais, pouvaient poser des questions. Alors ils avaient préparé, ils avaient quand même mis les photos quand j'étais arrêtée à Prague et mise en prison pour avoir manifesté contre l'antisionisme. Et puis il y avait cette photo où on m'a emmené de la prison vers la frontière, vers l'Autriche où on m'a expulsée. Quand même.
Qui est restée.
Ouais. C'est resté quand même à Prague. En Pologne, non, on n'en a pas parlé. Mais enfin, la première fois, je me rappelle, je voulais aller en Pologne, ils m'ont refusé le visa. Ah. Se rappeler la manifestation.
Il a fallu beaucoup de ruses aussi, d'imagination, de ténacité.
Il fallait trouver, il fallait se préparer.
Mobiliser l'opinion.
Mobiliser aussi, surtout la presse aussi, hein, parce que sans presse.
Sans presse, c'est ça. Enfin, l'opinion via la presse, effectivement.
Ce sont des photos, ce sont des rapports des agences aussi.
Et savoir prendre des risques.
Qui était important. Et puis. Non, ça, c'est des campagnes de presse qui ont quand même déclenché beaucoup.
Hein. Oui. Comment vous expliquez qu'il y avait aussi peu, finalement, de chasseurs de nazis
et... Oh, ben ça, c'était pas les victimes. Il y avait peut-être, à la rigueur, à la libération des camps, qu'un détenu s'est retourné contre un capot, je sais pas. Mais en principe, officiel, rien n'est connu. Bon, il y a les livres sur la chasse aux criminels nazis. Bah, il y avait le Mossad qui a arrêté, qui a pris Eichmann. C'était donc préparé, avion, etc. Mais sinon, parce que d'abord, les victimes n'étaient pas préparées. Je crois que c'était pas dans l'intérêt non plus de tuer. Il fallait chercher les criminels nazis. Ils avaient peur pour eux-mêmes. Et c'était pas leur esprit, vraiment pas. C'est pour ça, j'ai dit, on était tellement nombreux pour... ils étaient davantage de faire la justice. Je dis, c'est pour ça qu'on a pu réunir un train de 1000 personnes pour aller à Cologne, parce que tous ces juifs-là voulaient que ces criminels soient jugés, mais jugés par les Allemands. Mm. Donc, oui. Donc, on n'aurait pas trouvé 1000 pour tuer. Non, ça, je crois que c'était pas...
Parce que vous étiez assez seul.
Ils n'avaient pas un sentiment de vengeance, et surtout le sentiment de la justice, qui était beaucoup plus important, parce que le procès de Eichmann aussi, c'était un procès extraordinaire. Il n'était pas tué sur place, il était condamné
et
à mort.
Et vous-même
enfin,
n'avez...
C'était tout ça, c'était dans la loi, il avait des
vous-même n'avez jamais exercé de vengeance, vous
non.
avez... fait des tentatives d'enlèvement
pour
attirer l'attention, mais...
Barbie en Amérique, à la passe, ou aussi Serge a menacé Lichka avec un revolver qui n'était pas chargé, on a vu l'enlever. Bon, les enlèvements, ça aurait été pas mal, parce qu'à l'époque, il aurait pu être jugé par le tribunal militaire en France, mais ça n'a pas réussi. Mais après, le procès en Allemagne était beaucoup plus important qu'un procès, je ne sais pas ce que ça aurait donné ici à Paris...
Mais ce dont on ne se rend pas forcément compte, nous, lecteurs français, sans doute pareil pour les lecteurs allemands, c'est que vous étiez quand même très seul, même si ensuite vous avez réussi au début. Et puis dans un certain dénuement, puisque vous aviez été révoqué, Serge avait quitté la Continentale, vous aviez heureusement votre belle-mère pour...
Au fond social.
Votre belle-mère était là pour s'occuper heureusement de votre fils, mais au départ vous étiez très seul. Par exemple, l'État d'Israël vous a pas aidé. Ni matériellement.
Les Allemands avaient l'aide de l'Allemagne de l'Est, bien sûr, d'ailleurs avec les documents sur le dossier Kissinger, et puis aussi ils ont imprimé plusieurs livres. Mais Israël, si, on avait quand même, dans le procès de Cologne, il y avait l'avocat israélienne, il y avait un comité de soutien en Israël. Non, ça, quand même, puis la proposition pour le prix Nobel, la paix. Non, les Israéliens.
Oui, mais au début, vous payiez de votre propre argent les billets d'avion, les photocopies, tout le matériel qu'il faut.
On avait des amis, on avait les Lenchna qui nous donnaient
pour les campagnes.
On avait l'Aurore, la propriétaire nous a donné un billet là, pour aller avec Madame Allenbrunner. Et puis on avait quelques amis qui nous aidaient, oui, mais enfin, c'était pas grand-chose, non.
Non, mais parce qu'on réalise pas à quel point, quelle volonté il a fallu, enfin, et au prix de sacrifices quand même pour vous.
Non, il n'y avait pas d'organisme qui dit, voilà, j'organise les voyages, etc. On se débrouillait toute seule.
Comment vous jugez la situation présente aujourd'hui, le regain d'antisémitisme en France, Pegida, en, je ne sais pas si je prononce
en
bien,
Allemagne,
en
oui.
Allemagne.
Ce sont des mouvements d'ailleurs nés, bon, il y a beaucoup, c'est la haine des immigrés, oui, c'est ça. Mais pourtant en Allemagne, on raconte encore, on raconte là, combien de justement, ceux qui ont dû suivre l'Est, qui ont été récupérés et bien accueillis en Allemagne de l'Ouest. En principe, l'Allemagne ne devait pas avoir une PEGIDA. C'est vraiment, je trouve, c'est honteux. Cette organisation commence à perdre un peu d'influence. Il y a aussi le parti, là. Mais là, c'était quand même un mouvement plutôt, on a vu, avec beaucoup de pro-nazis. Et puis, il y a aussi beaucoup de contre-manifestations en France. Je crois que ce qui se passe actuellement avec celui-là qui a encore décapité quelqu'un, je crois que ça va être dur pour... pour contredire Marine Le Pen qui a dit pour dire pour comment ça peut arriver. Et puis en Allemagne aussi, ceux qui sont allés en Syrie n'ont pas eu ces attentats, mais enfin ceux qui sont revenus, on a vu tous qui étaient nés des Allemands, nés en Allemagne, éduqués en Allemagne, ils sont allés en Syrie, ils n'ont pas eu la possibilité de faire des attaques en Allemagne, mais ce sont quand même tous des gens qui étaient intégrés dans une société où ils étaient bien accueillis, c'est ça qui est terrible. Alors il y a quelques salafistes, ou je ne sais pas qui dans les mosquées, qui les imprègnent et qui leur disent, mais tu n'es pas tellement content dans ta vie personnelle, bon, man, je te promets quelque chose, tu seras un héros un jour. Ce sont des gens aussi, il y a quelques-uns qui ont fait des études, mais je crois que la grande majorité sont comme des plus ou moins un peu primitifs, celui des livreurs là, le dernier qui se laisse entraîner. Est-ce mais que... ça c'est déjà certain aussi, c'est l'école, on commence à les éduquer.
Est-ce que vous pensez que en France, par exemple, les institutions juives, elles luttent efficacement contre ça, parce que vous êtes une pro de l'action politique. Vous avez
Les institutions juives,
je
m'appelle quand il y avait après l'affaire du Donné, c'est Arnaud et puis avec le Conseil d'État et nous les spécifiques avaient programmé une manifestation à Nantes, c'était la première présentation. Bon, personne bougeait. Donc quand on a prévu la manifestation, le Conseil d'État interdit. Jeudi, on a fait un appel à la Bastille, mais il n'y avait pas beaucoup. Le CRIF avait refusé de venir. Les organisations juives ne voient pas encore tellement le danger. Bon, ils disent qu'il faut partir en Israël, mais ce n'est pas une solution non plus. Il n'y a pas tellement de gens qui ont la possibilité. C'est financier aussi. On a des amis en Israël qui accueillent des gens. Bon, ils s'inscrivent dans l'agence juive, il y a une petite aide. Mais est-ce qu'ils peuvent, pour les personnes âgées, une vie Vous savez, Israël n'est pas bon marché, comme vous savez. Donc, ce n'est pas une solution très, très facile. Mon avis, il vaut d'amour. Bon, c'est
article
qu'il faut partir. D'ailleurs, le meilleur exemple, c'est notre ami, là, qui est des membres de FICFI, là, Dominique Sabrier, qui venait commémoration au musée de la Shoah. Elle avait perdu son oncle, elle disait son nom. Elle déménage à Bruxelles, au musée. L'oncle était tué par les nazis et elle était tuée par les islamistes. Alors, donc, vous voyez, je crois que ça, c'est très, très dangereux parce que... Ceux qui combattent l'islamiste vont combattre aussi un jour les juifs. Donc Marine Le Pen, même si elle est contre les immigrés, etc., elle sera un jour, Pétain sera à nouveau comme le père déjà.
Vous n'êtes pas très optimiste quand même.
Non, ça c'est, je crois que le Front National, se battre contre le Front National, là c'est le comité juif où les juifs devaient faire pour empêcher qu'elle vienne, c'est ça, parce qu'il n'y a pas de danger avec le parti démocratique, gauche, droite.
Vous pensez qu'aujourd'hui on a un peu démissionné, enfin en tout cas qu'on ne se mobilise pas assez?
Je crois que oui, c'est ça. Oui.
Qu'il y a une certaine indifférence de la société.
C'est tout comme on a pu dire au congrès du CRIF, au gala du CRIF.
Oui.
Ça, il faut voir, c'est vraiment un ennemi, le Front National, c'est un ennemi. Comme nous, à l'époque, on s'est bagarré contre les NPD en Allemagne, mais on a réussi toujours de ne jamais permettre ce parti d'avoir 5% pour entrer au Parlement. Et ça, c'est aussi, avec les jeunes Allemands, on se bagarrait, on était battus, la police allemande protégeait l'extrême droite et pas les manifestants. Mais il faut s'engager vraiment, là aussi, avec les trois bonnes femmes qui, avec le sein nu. Bon, ce sont des actions.
Les fémines, oui.
C'était vraiment c'était un peu drôle, mais est-ce que ça a dû donner chez les Français le truc que le Front National est pétainiste et dangereux? Je ne sais pas. Enfin, ils avaient le drapeau hitlérien, je crois. Non,
la croix gammée sur les seins, je crois d'ailleurs.
Mais ce n'était pas une vraie éducation pour les jeunes, je ne crois pas. Il y a trop d'humour, il y avait trop d'humour pour rigoler, et puis on ne voyait pas le fond, je crois.
Parce que vous, et on va finir là-dessus. Vous, vous avez toujours eu à l'esprit de... C'est pas juste faire de l'agite propre, c'était aussi éduquer, faire prendre conscience.
Ah oui, mais
avec
là,
des dossiers solides.
Pour, c'était jamais pour rigoler. Non. C'était avec les dossiers, ben, le procès de Cologne, on n'aurait pas pu l'avoir en cassant les carreaux devant les criminels.
Ça suffisait pas.
Ça suffisait pas si on n'avait pas apporté.
C'est ça par rapport aux femelles dont vous parliez. Merci,
On n'avait pas apporté les dossiers. Non. C'est, ils étaient condamnés pour les documents qu'ils ont signés, le rôle qu'ils ont joué.
Merci Beate Klarsfeld. J'en profite pour annoncer que vous allez recevoir ce 20 juillet des mains de l'ambassadrice d'Allemagne en France, la Bundesdienstkreuz, qui est l'équivalent chez nous de la Légion d'honneur. Et ça se passera donc à l'ambassade d'Allemagne en France. C'était Mémoire Vive, deux adresses pour nous retrouver, www.radio-rcj.info, www.mémoirevive.net. À dimanche prochain.